VOA Afrique.
Bonjour à tous et heureuse de vous retrouver ce jeudi pour votre rendez-vous de Washington Forum. Les avis divergent sur l'héritage de la présidence de Barack Obama. Positif pour des millions d'Américains, il est finalement mal compris par beaucoup d'autres. Que retiendra-t-on des 8 années de Barack Obama à la Maison-Blanche ? Un homme de rupture ou de transition avec une cote de popularité élevée, mais aussi l'élection de Donald Trump qui fait un peu partie de son héritage, celui qu'il laisse derrière lui. Et puis nous ferons un focus sur cette journée historique pour la Gambie avec son nouveau président Adama Barrow investi au Sénégal. C'est tout de suite dans Washington Forum. Bienvenue à vous dans Washington Forum. Certains analystes disent que le bilan de Barack Obama ressemble à l'homme qu'il est, c'est-à-dire complexe. Le 44e président des États-Unis s'en va avec un taux de popularité élevé du niveau de celui de Ronald Reagan. Retour sur les deux mandats du premier président noir des États-Unis. Cette superpuissance, les détails avec Arzuma Compaoré.
L'image du premier Africain-Américain à la Maison-Blanche, la main dans la main avec sa femme et ses deux filles, a sans doute été un moment historique qui a marqué les esprits.
S'il y a quelqu'un qui doute encore que l'Amérique soit un endroit où tout est possible, qui se demande encore si le rêve de nos pères fondateurs est vivant de nos jours, qui remet en question la puissance de notre démocratie, ce soir, vous avez votre réponse.
Tonight is your answer. Les Américains apprécient Obama, le père et le mari, même ceux qui ne sont pas d'accord avec certaines de ses politiques.
Peut-être plus que n'importe quel autre président, il a intégré sa vie des familles à sa direction du pays et ce n'est pas une chose facile à faire.
Au début, Obama s'était forcé de rendre justice aux victimes des attaques du 11 septembre 2001. Depuis ces événements tragiques, Osama Ben Laden, le dirigeant d'Al-Qaïda, avait échappé à l'ancien président George Bush. Tard, dans la soirée du dimanche 2 mai 2011, Obama s'est adressé au peuple américain.
Ce soir, je peux dire au peuple américain et au monde que les États-Unis ont mené une opération qui a tué Osama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda, et un terroriste responsable du meurtre de milliers d'hommes, femmes et enfants.
Cette grande victoire a été très vite suivie par le début de la guerre civile en Syrie. Et le 21 août 2012, Obama a émis un avertissement au président syrien Bachar al-Assad.
Nous ne pouvons pas avoir une situation où les armes chimiques ou biologiques tombent entre les mains de mauvaises personnes. Nous avons été très clairs avec le régime d'Assad, mais aussi avec les autres acteurs sur le terrain. Une ligne rouge, c'est de voir tout un tas d'armes chimiques être déplacées ou être utilisées.
Un an plus tard, les observateurs disent que l'armée d'Assad a tué plus de 1000 personnes avec du gaz sarin. Contrairement aux attentes, les États-Unis n'ont pas répondu avec force. Pour le chercheur syrien Haïd Haïd, les espoirs de beaucoup de Syriens ont été brisés.
Ce qui se passe en Syrie est juste une autre bataille dans une guerre plus large.
Sur le plan national, le président Obama s'est exprimé sur l'état des relations raciales en Amérique. Le massacre de 9 Africains-Américains dans une église en juin 2015 a particulièrement ému le président, surtout quand les familles des victimes ont pardonné le tireur. Amazing grace. Sur la scène mondiale, Obama s'est détaché des anciennes politiques pour établir des ouvertures historiques avec la Birmanie et Cuba.
Parce que, à bien des égards, les États-Unis et Cuba sont comme deux frères qui ont été éloignés pendant de nombreuses années, même si nous partageons le même sang.
Le président a toujours apprécié la compagnie des jeunes, comme ici au Vietnam. Obama a déclaré que bien que son temps en tant que président arrive à sa fin, le réseau mondial qu'il a lancé pour encourager le leadership parmi les jeunes ne fera que s'agrandir.
Et je vous le disais à l'ouverture de cette émission, en deuxième partie, nous parlerons de la Gambie où des troupes sénégalaises sont entrées sur le territoire. Selon le porte-parole de l'armée sénégalaise, nous vous donnerons plus de détails en deuxième partie. Alors, nos invités sur ce plateau, avec nous Scott Bob, vous êtes le directeur de VOA Afrique, ici à Washington, et puis Mustapha Tossa, vous êtes analyste politique et vous êtes de passage dans la capitale américaine à l'occasion de l'inauguration du président élu Donald Trump. Alors, Scott Bob, quel bilan est-ce qu'on tire de ces 8 années de Barack Obama ?
Eh bien, ce ont été des années difficiles. On se rappelle que M. Obama était libéral, surtout, et il a modéré assez bien son discours pendant ses campagnes présidentielles. Lors élu pour son deuxième et dernier mandat, ses principaux libéraux sont ressortis, ce qui a intensifié la colère des conservateurs. D'un autre côté, je pense que ce que le peuple américain se rappellera pendant longtemps, c'est cette image de père de famille exemplaire, l'image de ses filles qui grandissaient devant tout ce grand public. Et ça, ils en garderont un souvenir chaleureux pendant longtemps.
Mustapha Tossa, un président populaire, on voit les derniers chiffres, 66% de cote de popularité. Est-ce que c'est aussi ça qui va rester de Barack Obama ? Il a changé, il a amélioré ou il a apporté un nouvel éclat à la fonction présidentielle aux États-Unis ?
Oui, c'est vrai. Ce qui restera, c'est cette popularité qui fera pâlir de jalousie tous les chefs d'État européens, africains ou arabes. Faire deux mandats et finir avec une telle cote de popularité, une telle cote d'amour de la part d'un certain nombre d'Américains, ça c'est vraiment un exploit que seul un homme comme Barack Obama aurait pu le faire. Alors son bilan, vu d'Europe, vu du monde arabe, il est un peu mitigé. C'est l'homme qui s'est beaucoup... c'est l'homme qui a appliqué en fait la maxime de America First avant Donald Trump. Lui, il a dit, c'est le bonheur des Américains qui m'intéresse, je vais tout faire pour régler leurs problèmes, ne pas s'impliquer militairement dans les autres théâtres d'opération comme l'a fait l'administration Bush. Lui, c'est America First. Alors America First dans ce sens où est-ce qu'il a réussi dans son programme à voir le nombre de ruptures sociales, de frustrations sociales qui tranchent encore ou qui mangent entre guillemets la société américaine, on peut dire qu'il n'a pas tout à fait réussi et qu'il aurait fallu un mandat supplémentaire pour lui pour avancer dans ce sens.
Un troisième mandat, voilà. Qu'il a dit qu'il aurait été capable de remporter si jamais il s'était représenté. Scott Bob, il a quand même hérité d'une Amérique en mauvaise position. Posture en 2008, après la crise économique, il a évité la récession au pays. Un bilan économique qui est quand même plutôt bon, non ?
Oui, d'ailleurs, une récession la plus grave depuis les années de 1930. Il va avoir une économie en croissance, le taux de chômage est très bas. Mais il a eu aussi des défaites et surtout, il a fâché beaucoup d'Américains. Qui pensaient qu'ils étaient oubliés dans tout ce changement et qu'ils pensaient aux minorités, qu'ils pensaient aux étrangers, aux immigrants, et ils oubliaient les gens à l'intérieur du pays. Alors, maintenant, on verra par exemple sur Obamacare son héritage, si elle va durer. Une chose qui a changé, les républicains qui pendant 8 ans ont parlé d'éliminer Obamacare, maintenant parlent plus de le remplacer. C'est déjà quelque chose.
Alors justement, Obamacare, l'une des mesures phares des années Obama, ils veulent disséquer cette mesure, mais est-ce que finalement, ça ne va pas rester ? Même s'ils enlèvent le nom Obamacare et que c'est, imaginons, Trump Care.
Oui, c'est
est-ce
vrai,
que
c'est
le fond
vrai.
Ne va pas rester
oui, justement,
quand même.
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Même si les républicains, sous la houlette de Donald Trump, vont faire, parce qu'ils l'ont promis quand ils ont fait campagne, et que Donald Trump a bâti toute sa fortune politique sur le fait de démanteler l'héritage de Barack Obama, beaucoup de monde sont convaincus que c'est un acte majeur, c'est un acte fondateur d'une nouvelle société.
20 millions d'Américains, quand même, c'est pas rien.
D'une nouvelle société. Qui lui garantissait un accès égalitaire à la santé, ce qui était une blessure géante de la société américaine. Si on n'avait pas d'argent, on ne pouvait pas se soigner. Et Barack Obama est venu pour dire que n'importe quel Américain a droit à des soins. Je ne crois pas que cette administration des républicains, quelle que soit la forme que ça va prendre, pourra remettre en cause ce principe égalitaire. Sinon, ça provoquerait d'autres tensions qu'il va falloir gérer.
Alors d'autres tensions, on a parlé tout à l'heure de la communauté noire américaine qui a été victime de différentes tueries et on a parlé aussi... Scott Bob, la légalisation des armes à feu. Il a essayé de s'y attaquer, il n'a pas réussi, par exemple.
Par exemple, et puis le gun lobby s'est montré très puissant, plus puissant que jamais, et aussi ça a fait partie de cette résistance. C'est devenu presque une résistance à tout ce que M. Obama proposait de la part de cette partie de la population.
Mais est-ce que rapidement, on peut dire quand même qu'il a amélioré la condition des Noirs américains malgré les tueries qui y a
eu ? En tout cas, de la population générale, à cause de l'économie croissante. Mais ces meurtres de jeunes Noirs, surtout, ce qui a été surtout... Ça existait avant, mais c'était grâce aux caméras qui prenaient des vidéos et les webcams, les dashcams, qu'on a pu assister en direct à ces choses. Mmh. Alors c'est ça qui, à mon avis, a fait accroître toute cette colère.
Mustapha Tossa, le continent africain aussi avait beaucoup d'espoir en 2008 quand Obama a été élu. On attendait beaucoup, peut-être trop.
Pour la première fois, un président noir à la tête de la première puissance mondiale, il était normal que le continent africain soit fier de ce symbole et voit que ce symbole pouvait ouvrir d'autres portes. Alors, mais au bout de deux mandats, il y avait beaucoup plus d'affect, beaucoup plus de symboles que d'actions concrètes qui ont changé le devenir des États africains. C'est une des formes d'échec des deux mandats de Barack Obama. Il est venu avec l'idée de dynamiser les sociétés africaines, la démocratie, la performance économique. Et finalement, parce que à cause d'un certain nombre de facteurs, il s'est accommodé de ces régimes autoritaires et il n'a pas du tout été jusqu'au bout du rêve suscité chez les Africains.
Des régimes autoritaires qu'il a essayé de dénoncer. On se souvient tous de cette phrase « des institutions fortes, pas des hommes forts ». Scott Bobb, est-ce que ça va marquer aussi, ça va écorner un petit peu son image, un président pour les Africains métis?
Oui, je crois que, comme presque tout président, on est toujours déçu parce que les idéaux, les propositions ne sont jamais complétées dans un mandat, même de 8 ans.
Mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus pour le continent africain, par exemple, qu'il n'a pas réussi à faire?
Je crois que pour lui, c'était la démocratie et les libertés humaines qui étaient le plus important. Alors, il visitait les pays où on voyait une transition démocratique, comme au Ghana, par exemple, ou au Sénégal. Et il ne visitait pas Côte d'Ivoire ou il ne visitait pas Kenya.
Il n'a pas visité la RDC, par exemple. Oui.
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il ne pouvait y avoir de développement économique, de démocratie, sans la lutte contre la corruption et l'autoritarisme. Et ce combat-là, il a été théorisé sur le plan politique, mais il n'y a pas eu suffisamment d'actions concrètes et de prises de position concrètes pour influencer cette réalité.
Alors, on va prendre quelques réactions Facebook, parce que vous avez été nombreux, justement, à réagir sur Facebook. Alors, nous avons Jean-Jules Mbotti, en RDC, qui nous dit « Deux mandats de conflit... » Ah, alors, ce n'est pas celle-ci. C'est plutôt qui nous dit « Si ce bilan était positif, les Américains auraient voté pour la candidate pour laquelle il a battu campagne, et en Afrique, qu'il a échoué car il n'a pas pu tenir parole. Il a provoqué le chaos au Maghreb en se débarrassant de Kadhafi. » Alors, c'est une réaction. Autre réaction de RDC, celle de Alphonse Boaki, qui nous dit « Deux mandats de conflit entre les communautés afro-américaines et la suprématie blanche. Les violences policières meurtrières contre les Noirs ont été accentuées sous Barack Obama. » Et puis nous avons encore Archiduc Théodore au Tchad qui nous dit « Il a dit cette phrase, l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. Il y a encore le Yali, qui reste un très bon projet de partage avec les jeunes Africains. Il est un bon exemple à suivre. » Alors, messieurs, une réaction, le Yali, par exemple, Scott Bobb?
Oui, enfin, c'est une proposition. Et je pense que c'est là aussi, M. Obama a vraiment eu du succès. C'était un rôle, un modèle pour les jeunes Noirs, non seulement américains, un homme qui a eu du succès, mais qui se comportait comme un bon père de famille et qui, quand même, essayait d'aider les gens.
Oui. Mais il y a aussi, dans les réactions Facebook, si, par exemple, Barack Obama s'était présenté à cette élection, il aurait gagné, vu la cote de popularité. Alors, vu d'Europe et vu d'un certain nombre de capitales, ce n'est pas Donald Trump qui a gagné, c'est Hillary Clinton qui a perdu. C'est la candidate démocrate qui n'a pas été à la hauteur des enjeux et ce qui a ouvert un boulevard aux républicains qui lui-même était étonné de sa victoire.
Alors, on va accueillir notre autre invitée, Rachel Descostes, qui a pu nous rejoindre sur ce plateau. Elle est analyste politique et Rachel, je vous en prie, vous pouvez nous rejoindre. sur ce plateau. Alors, on nous dit qu'elle n'est pas encore prête. Alors, sur ces commentaires, on voit quand même l'aspect économique, même pour l'Afrique, finalement, est intéressant. Les échanges, celui de l'AGOA, par exemple, est-ce que ça va rester sous Trump? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de fort?
Il y a un certain nombre de programmes économiques. Le volume de la coopération économique entre les États-Unis et l'Afrique est remis en cause par les déclarations de Donald Trump, parce que dans cette radicalisation de l'America First, il y a de fortes chances que l'administration républicaine n'y voit pas beaucoup d'intérêt, n'y voit pas un investissement majeur et remet en cause. Mais cela inquiète beaucoup les Africains, et cela va les pousser, comme les Européens, va les pousser à remettre aussi, à se poser des questions sur leur unité. Ça pourra aussi interpeller les États africains et voir quel type de relation ils peuvent avoir avec les États-Unis.
Alors, je vous propose tout de suite de voir ces réactions de professeurs américains que nous avons recueillis ici à Washington. Prêt. Je vous proposais d'avoir d'autres réactions. Scott Bob, on revient sur sur cet aspect économique de l'Afrique, des échanges qui vont aussi être importants hein, avec les républicains, même si Obama a essayé de poser des jalons.
Je crois que ce que Trump dit, c'est que Amérique first, d'abord. Mais l'Amérique a intérêt à avoir des liens économiques avec les pays de l'Afrique, le pétrole, les minerais, etc. Donc je crois que quand même le pragmatisme va quand même régner. Il y aura des changements, il y aura peut-être des prises de position et des constats, mais en fin de compte, le monde est déjà trop engagé pour que ça change tellement.
Alors, on me dit que les réactions, les dernières réactions qu'on vous propose sont prêtes. Je vous propose tout de suite de regarder ces réactions de professeurs ici aux États-Unis.
Je crois que le bilan de M. Barack Obama comme président des États-Unis est un bilan assez mitigé. Pendant ces 8 dernières années, il y a eu certains progrès, mais il y a également un risque que même ces progrès vont être renversés par la nouvelle administration.
Les 8 années d'Obama, c'est de ça qu'il est question. C'était 8 années, à mon avis, merveilleuse d'inspiration, parce que la personne d'abord, je veux dire premièrement, lui en tant que personne, il a inspiré de nombreux Africains. Je fais partie du groupe Africans Achieving the American Dream. Nous avons vu grâce à lui que tout ne dépend pas de notre couleur, de notre origine et de quoi que ce soit, mais de notre volonté de pouvoir y arriver. Le Yes Weekend, c'est un message qui a résonné chez nous, les jeunes Africains.
Rachel Descostes, merci de nous avoir rejoints. Alors, Yes Weekend, est-ce que c'est le leitmotiv que tout le monde va retenir de ces 8 années Obama?
Certainement pour la communauté afro-américaine, pour les minorités qui n'ont jamais osé rêver de voir un président qui leur ressemble à la Maison-Blanche, Obama restera toujours un symbole que le plafond a été soulevé, a été levé pour ces gens-là. Pour les autres, on verra, mais surtout pour ma génération, c'est vraiment un symbole que personne ne peut nous enlever.
Alors, au-delà du symbole, concrètement, est-ce que certains disent que ça a été un homme de transition? Est-ce que vous pensez qu'il a justement posé les jalons d'une transition, par exemple pour la communauté noire américaine en Amérique du Nord? Est-ce qu'il a vraiment fait avancer les choses?
Bon, la première raison que les Afro-Américains faisaient banqueroute, c'est parce qu'ils avaient des frais médicaux. Donc, en implémentant le Obamacare, c'est sur, ça aide surtout la, les pauvres, surtout ceux qui sont financièrement fragiles, puis la communauté noire afro-américaine en fait partie. Mais puis en plus, c'était le premier président dans 5 présidents qui ont essayé de, d'implémenter ce système-là à le faire.
Il y a eu tout le Congrès contre lui quand même.
Il y a eu le Congrès contre lui pendant 6 ans, qui n'attendait que n'importe quoi pour sauter sur lui. Les Afro-Américains sont habitués à aller contre le courant, à aller contre les attentes et à exceller quand même. Et puis, Obama a su vraiment représenter ce qu'ils peuvent faire quand ils, ils continuent leur cheminement, quelles que soient les réactions et les contre-courants.
Alors justement, lui, il a eu une politique migratoire qui était beaucoup plus ouverte. On l'a vu avec, par exemple, ce programme YALI pour les jeunes Africains. Sous Donald Trump, ça risque d'être différent. Est-ce que, pour vous, c'était l'une des politiques migratoires la plus ouverte, par exemple? Est-ce que vous retiendrez aussi ça chez Barack Obama ou pas?
Pour la politique migratoire, c'est mitigé. On sait qu'il a ouvert la porte à certains, mais on sait aussi, par exemple, Cuba. Mais on sait aussi que les portes ont été fermées à des interprètes afghans qui ont aidé les Américains à gagner la guerre ou à faire leur guerre dans ce coin-là.
Il y a une sorte d'élitisme, vous pensez?
Je ne sais pas si l'élitisme, mais je ne pense pas qu'on peut dire que ça a été un succès pour tout le monde. Maintenant, il y a des Haïtiens qui se font détenir à la frontière parce qu'ils essaient de venir aux États-Unis, mais certaines autres communautés ont plus de succès. Donc, c'est mitigé sur ce point-là. Mais est-ce que Barack Obama a été élu pour ça? Je ne suis pas sûre. Ce qu'on peut dire, par exemple, c'est que pour la communauté latino, qui est des immigrants qui sont pas sans papier, ils leur ont ouvert la porte très grande. Et puis, on s'attend que Donald Trump aille dans le sens inverse.
Est-ce que pour vous, ça aura été, au-delà de sa cote de popularité, est-ce que vous diriez que ce 44e président aura été un bon président?
C'est difficile pour moi de parler d'Obama de manière objective. Je fais partie de ceux et celles qui ont conduit 14 heures aller-retour plusieurs fois pour aller aider à sa campagne la première fois et la deuxième fois. C'est le premier noir président. C'est un homme que je respecte, qui vraiment sera un symbole, pas pour, juste pour moi, mais pour mes enfants, pour nos petits-enfants. Donc, pour moi, ce serait toujours le meilleur
président. Donc, quoi qu'il arrive, il a déjà son empreinte dans
l'histoire. Pour
moi, ce
serait toujours le meilleur président, mais je pense qu'il a vraiment eu beaucoup de succès quand même, même si j'enlève mon préjudice, que ce soit le service de santé, que ce soit l'ouverture contre Cuba. Il a fini une des guerres et réparé l'économie américaine.
Je vous sentais assez d'accord avec
lui. Oui, et surtout aussi sur la scène internationale mondiale. Incontestablement, Barack Obama a séduit la plupart des capitales et tout le monde était vraiment triste de ne pas pouvoir le voir avoir un troisième mandat.
Mais un troisième mandat, ce serait aller contre ce qu'il a, par exemple, dénoncé en Afrique, ce changement de constitution. En tout cas, on retiendra un homme, le symbole, qui a marqué l'histoire et qui, quand même, a essayé de prêcher la démocratie, du moins à l'américaine, un peu partout. Je vous propose de poursuivre cette deuxième partie d'émission avec notre confrère Abdourahmane Dia, spécialiste de la Gambie de VOA Afrique, ici, qui nous a rejoint parce que, je vous le disais, la Gambie vit une journée historique compte tenu de la situation et du blocage à Banjul. La cérémonie d'investiture devrait se tenir à Dakar, s'est tenue à Dakar, pardon, aujourd'hui. Et bien évidemment, l'ONU, dans l'après-midi, ici à Washington, enfin ici aux États-Unis, s'est prononcée unanimement en faveur d'une intervention militaire de la CEDEAO, le Sénégal qui avait fait aussi pression. Et d'ailleurs, c'est à Dakar que s'est déroulé ce 19 janvier l'investiture du nouveau président Adama Barrow. Et je vous le disais tout à l'heure en ouverture d'émission, que les troupes sénégalaises se trouvaient à la frontière entre la Gambie et le Sénégal et qu'elles étaient déjà en train d'intervenir selon le porte-parole de l'armée sénégalaise. Alors, Abdourahmane Dia, ça y est, il est investi à Adama Barrow. Qu'est-ce que ça change concrètement, il a été investi au Sénégal dans une ambassade gambienne certes, mais qu'est-ce que ça change?
Ça change beaucoup. Bon, déjà, sur la technicalité, ils cherchaient à l'investir en territoire gambien. Et là, ils disent que l'ambassade, techniquement, c'est en territoire gambien. Donc, c'est une première étape qui a été franchie. Après, la seconde étape, c'est de l'imposer, si on peut ainsi dire, ou en tout cas de l'installer à son fauteuil, que Yamé refuse de céder depuis, après avoir dans un premier temps reconnu sa défaite. Donc c'est très important et ils n'ont pas pris du temps justement pour entrer en territoire gambien après l'investiture de Adama Barrow.
Et justement, cette investiture dans une ambassade dans un pays étranger, est-ce que certains ne vont pas trouver ça un peu ambigu ?
Oui, ça fait étrange de voir ce jeu politique africain se dérouler de cette manière-là, mais il faut dire aussi qu'avec cet acte et avec ces événements, on est en train de progressivement d'éviter la guerre civile en Gambie qui s'annonçait entre un président qui ne veut pas lâcher le pouvoir et un autre qui revendique la légitimité de la victoire. Et les acteurs régionaux et internationaux sont intervenus pour arriver à cette solution qui évite au peuple gambien un éclatement et une guerre civile. Et ça, c'est déjà beaucoup. Alors, simplement, ironie de l'histoire, le Adama Barrow, on l'appelle dans la presse le Donald Trump africain. Pour rattraper l'actualité du jour.
Pour quelle raison ?
Parce que c'est un mania de l'immobilier qui a réussi en menant une campagne à cette manière sur sa propre réussite à lui.
Alors Rachel Coste, là encore, on peut faire un parallèle avec ce que disait Barack Obama pendant sa présidence, des hommes forts qui empêchent des institutions solides. C'est le cas avec la Gambie. Comment est-ce qu'on peut...
Haïti aussi a eu le même problème pour la transition d'un président à l'autre. Il y avait un président intérim. Donc, c'est la démocratie n'est pas facile pour des jeunes pays, pour des pays colonisés. Et on espère voir Haïti, la Gambie, les autres pays africains copier peut-être le modèle américain où la transition se fait plus humblement. Ouais.
Alors, Abdourahmane Dia, aujourd'hui, les forces sénégalaises sont sur place, la CEDEAO est sur place. C'est quoi le scénario si jamais Yahya Jammé résiste jusqu'au bout ? On a vu qu'il a refusé, par exemple, l'aide des médiateurs, les propositions marocaines, par exemple.
Absolument, il y a eu le Maroc, et jusqu'à hier tard, il y a eu le président mauritanien qui était aussi un proche de Yahya Jammé, qui a essayé de proposer une solution pacifique. Et semble-t-il, cela n'a pas marché. Mais je pense qu'on peut toujours arriver à installer Adama Barrow sans effusion de sang. Le chef d'état-major de l'armée a déclaré qu'il n'allait pas engager ses troupes pour une bataille, entre guillemets, stupide.
Le chef d'état-major gambien. Hein.
Voilà. Donc maintenant, il n'est pas exclu qu'il y ait des irréductibles, des fidèles de Yahya Jammé autour de lui, notamment sa garde républicaine. Donc on attend de voir.
Alors, il a refusé l'offre marocaine qui était l'exil.
Ce n'est pas encore sûr que la médiation marocaine, je crois qu'elle est toujours en cours et qu'elle peut aboutir à convaincre Yahya Jammé de venir au Maroc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acter l'échec. Alors, ce que cette situation révèle pour nous, observateurs, c'est que dans ces pays africains, la culture de l'alternance politique, la culture du changement transitoire, démocratique, et c'est ça la clé de toutes les crises et on n'arrive pas à les avoir dans ces pays africains.
Alors, justement, ici, on va assister à l'inauguration de Donald Trump. Rachel, vous parliez tout à l'heure de cette transition qui aura, et on va avoir le mot de la fin avec vous, Rachel, une transition ici aux États-Unis, des transitions sur le continent.
Bon, transition d'un président à l'autre, c'est sûr. On attend de voir ce que Trump va faire, mais c'est aussi la transition de Obama président à Obama citoyen. On espère le voir faire le tour du monde et utiliser son capital politique pour parfaire l'Afrique, sa mère natale, et pour rappeler aux Américains que nos frères et sœurs nous attendent.
Merci beaucoup. Merci à tous. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à nos invités et à vous pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe technique et à Ganga FM à Conakry qui diffuse Washington Forum. Et à la semaine prochaine.
Véroa.